Sport vous propose cette rediffusion.
Mais vous me reconnaissez? Laissez-moi un message.
À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
C'est un grand comédien français poursuivi par un passeport algérien avec une sonnerie de portable inimitable. C'est Slimane Dazi, révélé par Un prophète de Jacques Audiard et Rengaine de Rachid Jaidani, la crème du cinéma d'auteur. Né pas loin des bidonvilles de Nanterre en France, le moins qu'on puisse dire, c'est que le milieu du cinéma n'attendait pas franchement un Slimane Dazi dans ses castings. Je vous donne un peu l'image à l'écran. Slimane, c'est une gueule typée, une belle gueule fracassée, un charisme qui n'a pas besoin d'en rajouter et qui joue régulièrement les bad boys, les truands ou les métèques. Une belle filmographie, synonyme aujourd'hui de carrière internationale. On signalera un Jim Jarmusch, mais aussi des séries télé comme La Commune ou Engrenage. Et pourtant... Il y a un bémol dans ce conte de fées. Tout en gravissant les échelons du cinéma français jusqu'au tapis rouge du Festival de Cannes, Slimane Dazi doit toujours quémander la nationalité française, lire son indigène de la nation qui vient de paraître. Comme si le conte de fées n'allait pas sans la fée Carabosse. Bonjour Slimane Dazi.
Bonjour.
L'écriture de ce livre, Indigène de la nation, s'ouvre sur l'infarctus qui vous est tombé dessus il y a 2-3 ans, j'imagine, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est parce que vous êtes un homme de cœur?
Je suis un homme de cœur, oui, je crois. Après, l'infarctus m'est tombé dessus parce que je suis quelqu'un de passionné, quelqu'un d'habiter, et puis c'est un peu la montagne russe, c'est souvent des excès, c'est souvent des excès de passion, des excès d'autres choses, et puis des fois ça pète, si je puis dire. Mon Chibani, il arriva à Marseille en septembre 1946 par le bateau en provenance de Mseddet Hatta. Il monta dans le premier train persuadé qu'il se rendait à Paris. Les cris d'un agent de la SNCF « Nice, terminus, tout le monde descend !» laissèrent mon père désorienté, sa valise posée à ses pieds, seul au milieu d'un quai étranger. Il s'avança, non sans timidité, vers un passant et dans un français plus que pauvre, lui demanda son chemin, tendant l'enveloppe où était griffonnée sa destination. L'homme l'accompagna jusqu'au quai, d'où partait le dur pour la capitale. Et après une nuit de voyage au petit jour, mon Chibani débarqua en gare de Paris. Il lui restait encore une correspondance pour Laon, dans le département de l'Aisne. C'est à Laon que se trouvait son père, mon grand-père. Il y était allé 10 ans plus tôt, et il avait dû être frappé d'une forte crise d'amnésie, car il avait oublié sa femme et ses enfants, qui étaient restés au pays sans nouvelles depuis une éternité.
Merci Slimane Dazi pour cet extrait en sol majeur d'Indigène de la nation. Je me disais en vous écoutant qu'il faudrait faire un livre, ça a déjà été fait sans doute, sur l'amnésie et sur le silence de nos pères maghrébins, de cette génération en tout cas. Vous dites plus loin, l'histoire de mon père tient dans les mots qu'on ne s'est pas dit.
Ouais.
Par quoi passait votre communication avec ce père alors?
La communication. Par des moments très simples. Autour du repas. Moi, j'étais le premier des garçons, donc il y avait une relation où il y avait encore plus de pudeur, il y avait encore plus de retenue, parce que j'étais un petit peu quelque part, son troisième œil, j'étais le lien de la culture traditionnelle que mes parents m'ont transmis, parce que c'est la seule richesse qu'ils avaient, qu'ils n'ont pas pu travailler n'ayant jamais été à l'école, que ce soit à l'école française ou à l'école arabe, parce que dans des petits douars, dans les montagnes, c'était pas possible.
Vous diriez que dans ce coin de France où ils ont fait leur vie, donc d'abord à Nanterre et ensuite à Suresnes, donc en banlieue, vous diriez qu'ils ont reconstitué une petite Algérie?
Mes parents?
Mm-hmm.
Non. Non. D'abord à Nanterre, ensuite à Cachan, parce qu'à Suresnes, c'était la rue de Suresnes à Nanterre.
Pardon.
Voilà. Mmh. Et non, ils n'ont pas du tout reconstitué une petite Algérie. Mes parents sont des Algériens parce qu'ils sont arrivés en France. Enfin, mon père est arrivé en France en 1946, comme je le disais. Son père était là en 1936. Et mes parents étaient toujours des indigènes de la nation. Ils n'avaient pas le droit de vote. Donc, leur souhait le plus fort, c'était de redevenir libre le plus rapidement possible.
Avant 1962, et donc l'indépendance de l'Algérie, en France, votre père est ce qu'on appelle un Zoufri ?
Oui. Alors, c'est drôle parce que c'est un mot qui m'a fait penser ensuite à une espèce de liaison faite par... c'est un jargon qu'ils ont dû s'inventer. Zoufri, c'est l'association d'ouvriers et souffrir. Et ce qui est drôle, c'est que mon père et puis ses cousins, enfin les gens, toute la famille de Zoufri qui nous entourait et que je côtoyais et qui nous côtoyait, ils conjuguaient au pluriel Zoufri et ils l'appelaient Zouafra. Voilà, c'est...
Ça, c'est très, très algérien. Il y a une créativité dans la langue extraordinaire.
Ah ouais, ça, c'est... D'accord. C'est sûr que c'est très algérien, quoi.
Enfance à Nanterre, pour vous, mais au début, mais ce n'est pas une enfance bidonville, Slimane Dazi.
Non. D'ailleurs, c'est bien que vous le souligniez, parce que même mon père et son frère, qui sont arrivés donc ici au milieu des années 40, n'ont jamais vécu en bidonville. Ils ont vécu dans des petites chambres d'hôtel, ils ont vécu dans des foyers, mais ils n'ont jamais vécu dans des bidonvilles. Je pense qu'ils se sont mis un point d'honneur de payer un tout petit peu plus cher, mais de vivre dans des conditions un tout petit peu plus saines aussi.
Ça a changé la donne hein, quand même, tout ça.
Mais bien évidemment.
Vous êtes né en 1960 et donc arrive l'indépendance de l'Algérie en 62. Comment est-ce qu'ils la vivent, vos parents, eux qui sont installés en France à ce moment-là ?
Mes parents, ils la vivent avec, je pense, hein, parce que j'ai 2 ans, donc je ne vais pas vous dire que je m'en souviens. Hein, en 62, j'ai 2 ans.
Vous êtes un précoce et un surdoué.
Oui, je suis un surdoué précoce et dyslexique. Et je pense qu'ils la vivent avec une grande, grande fierté. Moi, mon père, c'est un père à son âme, il est parti, mon père est décédé il y a 2 ans. Et ils l'ont soutenu en faisant des collectes et certainement en travaillant avec des groupuscules, on va dire, qui étaient formés par ou le FLN ou le MNA. Mmh. Mais je ne veux pas aller dans les détails parce que là, c'est l'histoire de mon père et ce n'est pas la mienne. En 1848, l'Algérie est annexée à la République française. Ses habitants reçoivent, s'ils en font la demande, la nationalité française. À partir du début du XXe siècle, les Algériens viennent chercher du travail en métropole et plusieurs vagues d'immigration se succèdent. Le recensement de la population métropolitaine fait état d'un nombre de 208 540 Algériens en 1953. La France ayant adopté le droit du sol, les enfants de parents algériens nés sous le sol français sont automatiquement français. La situation change en 1962 quand l'Algérie conquiert son indépendance.
I comme indigène.
Alors en fait, votre statut d'indigène de la nation, pour reprendre le titre de votre livre Slimane Dazi, repose sur une ordonnance du 21 juillet 1962 qui dit quoi ?
Elle dit que toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1963 ne pourront acquérir automatiquement la nationalité française à leur indépendance, à leur majorité, autant pour moi. Bon, c'est un petit peu pareil. Ils seront donc amenés à faire une demande de réintégration à la nationalité française.
Même s'ils sont nés sur le sol français.
Avant 62, l'Algérie était le sol français. Mais même s'ils sont nés en métropole, et c'est là où le bas blesse. Mm-hmm. C'est là où je trouve que l'absurdité, elle est à son sommet.
Et vous, cette histoire de réintégration française dans la nationalité française, c'est d'une très grande violence pour vous,
oui,
parce que vous avez l'impression de vivre en dehors de la nation.
Tant que je suis en France et que j'ai pas affaire à l'administration, bien évidemment, je vis comme un Français, avec bien évidemment les délits de faciès. Hein, mais bon, ça c'est, je suis pas en tant qu'Algérien le seul à le subir. Donc ça, c'est presque normal. Par contre, à partir du moment où je dois voyager, et là hors espace Schengen, et surtout, on va dire, ces 16 dernières années, 17 dernières années, en gros depuis septembre 2001, voyager avec un passeport algérien, c'est posséder une arme.
Donc ça donne des situations absolument ubuesques pour le comédien que vous êtes, qu'on voit partir en voyage pour un tournage. Vous faites une carrière internationale en même temps. Mais lorsque vous présentez ce fameux passeport algérien, problème.
Quand je présente le passeport algérien, non seulement problème, mais ce qu'on regarde d'abord, c'est le passeport écrit en arabe. C'est un délit de faciès sur le passeport vert. C'est assez violent, ouais. J'allais dire brutal, non, c'est violent.
Donc vous êtes embarqué, si j'ose dire, dans cette histoire de demande de réintégration dans la nationalité française. Il y a toute une sorte de plusieurs démarches à faire, mais le top de l'humiliation de cette démarche pour vous, Slimane, c'est le fameux test d'évaluation de langue française qu'on vous fait passer. Ça ressemble à quoi, ce genre de test?
Écoutez, le test de langue française au CCI en lui-même pour une personne qui arrive en tant qu'émigré ou en tant que migrant ici et qui fait une demande de naturalisation à la nationalité française, je pourrais le comprendre. On demande de cocher des cases, on pose certaines questions par rapport à la vie sociale en France, à la laïcité.
De question, c'est si vous avez des enfants, voulez-vous franciser leur prénom?
Oui, ça c'est aussi le genre de questions que je trouve d'une absurdité sans nom, quoi. Je veux dire, on peut être bien plus français en s'appelant Mamadou ou Slimane que Jean-Claude ou voilà.
Question, si vous êtes religieux, préférez-vous mettre vos enfants dans une école religieuse plutôt qu'à l'école de la République?
Oui, alors là, c'est même pas si vous êtes religieuse. Si vous êtes de confession catholique, musulmane ou juive, préférez-vous mettre vos enfants à l'école? Et on a l'impression que là, c'est plus un test de langue française, mais derrière, il y a les RG, il y a la DST, il y a... Bon, pourquoi pas, hein.
C'est un questionnaire post-11 septembre.
Ah ouais, c'est un questionnaire post-11 septembre, c'est clair et net. Enfin, tout ça, pour revenir à ce que je disais, moi, je peux comprendre qu'il y ait ce genre de questions par rapport à une situation qui est très tendue aujourd'hui, mais par rapport à la langue française, quand on a envoyé tout le dossier, comme je l'ai fait moi, depuis la maternelle, j'ai envoyé toutes mes adresses de ma scolarité, même si je n'ai pas fait une grande carrière scolaire, hein, mais bref, toutes mes feuilles d'imposition, où je travaille depuis plus de 30 ans. Je ne comprends pas comment on peut imposer ce genre de questionnaire comme si je venais d'arriver il y a un an ou deux ans de, j'en sais rien moi, d'Afrique, d'Asie, ou de je ne sais où. Je suis né en France, j'ai grandi avec les valeurs de la République française, laïque, ce que vous voulez. Et si je suis Slimane d'Asie, de confession musulmane, que je sois pratiquant ou pas, ça me regarde.
Alors, vous écrivez, le magnétophone continue à débiter son questionnaire. Quelles sont les couleurs du drapeau français? Qui est Brigitte Bardot? Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet français? J'ose la question, Slimane d'Asie, est-ce que vous avez réussi le test?
Moi, je l'ai eu avec mention, je crois.
Donc vous êtes français?
Non, pas encore. Mais là, j'ai envoyé le dossier, j'attends la réponse. Ça peut durer un an, ça peut durer 18 mois.
C'est insupportable.
Bon, maintenant, franchement, très honnêtement, j'y pense même plus. Voilà, si ça arrive, tant mieux. Et puis si ça arrive pas, je pense que je ferai pas une troisième demande.
Ah oui?
Non, ça veut dire qu'on veut pas de moi en tant que français, ça veut dire que je mérite pas d'être français.
Vous pensez vivre un petit peu la même situation qu'un certain Abdel Hafed Ben Othman, qui est un auteur qui n'est pas du tout connu en France, et c'est bien dommage d'ailleurs, qui sait?
Abdel Hafed Ben Othman, qui c'était? Parce qu'il est parti il y a 2 ans. Abdel Hafed Ben Othman, c'est un prince, des temps modernes, c'est un chevalier qui a traversé notre époque. Il a écrit, je crois, 7 ou 8 romans, dont un qui me revient et qui hérisse le poil tellement c'est puissant, c'est Éboueur sur l'échafaud. Et il a écrit sept romans, dont la plupart ont été conçus en prison, parce que Abdelhafid a fait quand même 17 ans ou 18 ans de prison. Alors, je ne dirais pas que je m'identifie à l'histoire de Abdelhafid, parce qu'on n'a pas du tout le même cursus ou le même parcours, mais Abdelhafid est mort apatride. Abdelhafid n'avait pas de papier algérien, et Abdelhafid n'a jamais reçu une carte de résidence. Tu vois, c'est quelqu'un, voilà, de...
Je me disais, en vous écoutant, Slimane Dazy, que dans ce test de langue française, à côté de Brigitte Bardot, il devrait demander si on connaît la version carte de séjour de Douce France. Ça fait partie du patrimoine maintenant. C'est même quasiment l'hymne en sol majeur. Avant de mettre le pied dans le ballon avec le footballeur Salif Keïta, on va la siroter, cette chanson. Elle vous fait quel effet, cette version de Douce France ?
Elle me fait sourire. Elle me fait sourire parce qu'elle me rappelle mon ami Rachid, Rachita. Et puis, elle me rappelle que aussi, surtout que Rachid, ça a été un phare pour nous.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. La joie ou la douleur, j'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge, j'ai mon bonheur,
mon bonheur.
Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance.
Je suis très heureux de la distinction dont j'ai été l'objet. Et je remercie les journalistes africains qui ont bien voulu me désigner premier ballon d'or africain. Et je remercie également France Football d'avoir eu l'initiative de créer ce ballon d'or.
Salif Keïta et l'Afrique.
Je vais y aller dans 48 heures. Et c'est avec un réel plaisir que je vais retrouver mon pays, enfin, le continent africain et tous les compatriotes.
Salif Keïta joue dans une équipe africaine, quand ?
Ça peut arriver n'importe quand, ça.
Sur la pelouse d'En Sol Majeur, on a presque le coup de pied magique de celui que vous avez admiré apparemment comme un fou quand vous étiez môme, Slimane Dazy. le footballeur malien Salif Keïta, l'attaquant de Saint-Étienne. Vous étiez dans une forme d'émulation ou d'identification à ce grand footballeur ?
Ben, c'est la première fois que je m'identifiais à un autre homme que mon père. Ben, parce que c'était un Africain. Parce que cet Africain, il brillait par son talent, par sa classe, par son humilité. Il m'a fait rêver.
Mais c'est joli que vous disiez « je me suis identifié parce que c'était un Africain ». On connaît les tensions qu'il peut y avoir entre les Maghrébins et les Africains de l'Afrique noire. C'est très joli que vous disiez « il était noir, Africain ». Vous ne l'avez pas dit qu'il était noir, mais je me suis identifié à lui. Vous étiez au-delà de ces barrières-là.
Alors, déjà, je pense qu'à cette époque, elle n'existait pas, ces barrières-là, entre le Maghreb et l'Afrique. En 69, il ne faut pas oublier que l'Algérie, c'est la Mecque des révolutionnaires.
C'est vrai.
Il ne faut surtout pas oublier ça.
Et comme... Entre deux.
Est-ce que ces origines algériennes vous ont pesé, vous diriez, quand vous étiez gamin et ado, Slimane Dazi ?
Plus que mes origines algériennes, je pense que c'est la tête de Métèque. Après, les origines algériennes m'ont pesé. Le jour où j'ai rencontré ces trois CRS, certainement issus de l'OS ou de je ne sais où.
Ah oui.
Mais c'était à Saint-Raphaël. J'ai subi une ratonnade et s'il n'y avait pas eu les appels de mes potes, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui, j'en sais rien.
L'Algérie, donc pays de vos parents, c'est comme ça que vous le présentez au début, vous allez la découvrir pendant les vacances en essayant de vous faire adopter là-bas.
Ah. Ça, c'est pas la première fois que j'y vais, là. Hein, puisque la première fois que j'y vais, c'est en 1968, quand même. Hein. 1968, je rencontre mes deux grands-mères. Et puis, je découvre le Moyen Atlas. Et puis, je découvre surtout la cuisine de mes grands-mères dans les canouns. C'est les fours en terre cuite. C'est un goût qui... Voilà, la saveur, le goût, ils sont encore là. Les figues, l'odeur des figues, mélangées aux embruns de la mer qui remontent, parce qu'on est à flanc de falaise, là-bas. À Mserda, exactement, à Pera de Ouled Ben Aïd.
Mais vous êtes un Roumi, là-bas. Vous êtes un Français.
Ouais, complètement. Mais je veux pas. Donc... j'essaye de m'habiller comme eux, j'essaye de marcher pieds nus, c'est compliqué. Puis je fais tout pour apprendre la langue, pour vraiment... Et durant ces trois mois, malgré ma dyslexie, je vais réussir à surprendre mon père à mon retour.
Un jour, je ne sais pas exactement à quel âge, Slimane Dazi, vous allez vous retrouver devant, on est en France là, devant un juge pour enfants.
Oui.
Pour quelle raison ?
Bon, pour on va dire des petits vols, des petits cambriolages, et puis plutôt que de quand je suis déféré devant le juge, je tombe sur une personne qui est intelligente, qui est compréhensif, et je pense que c'est grâce à la figure de mon père et à ses épaules que le juge a éviter de me mettre en prison à 15 ans et demi, 16 ans, et puis m'a envoyé dans un centre de formation.
Voilà. Professionnel, donc qui se trouvait dans un château, à Nivilliers, c'est en Picardie.
Ouais.
Et là, vous y découvrez une certaine France.
Oui, j'y découvre une certaine France. Il y a la France de Nanterre, que je connais, de Saint-Denis, de toute la banlieue, d'Aubervilliers, et puis des gens qui viennent des Antilles, de l'île de la Réunion, et puis aussi la France... des bas-fonds. La France où s'il n'y a pas de solidarité, il ne reste pas grand-chose. Enfin, ce qui reste, c'est beaucoup de violence.
Vous êtes passé pas très loin de tout ce monde, de la violence, de la délinquance, peut-être même de la dope. On est là dans les années 80 et en 81, c'est la victoire de François Mitterrand qui a un drôle de goût pour vous.
Ouais, sa victoire, elle a un bon goût. Et puis, il s'est avéré que l'odeur de la rose, il nous est resté que les piquants qui nous ont bien fait saigner. Ça a été l'arrivée de la cam en masse dans les caves des quartiers. Elle arrive insidieusement, on ne sait pas comment, mais en tout cas, elle arrive par le centre de Paris, donc par les quartiers où il y a les moyens. Et puis, bien évidemment, Cette cam qu'il y a à Paris n'est pas la même que celle qu'il y a dans les quartiers. Celle qu'il y a dans les quartiers, elle est moins chère, mais bien évidemment, elle est plus pourrie, elle est plus empoisonnée. Et là, entre le début des années Mitterrand jusqu'à 2000, c'est 9 fois sur 10 quand tu portes beau. C'est pas pour faire la noce, mais c'est pour accompagner un pote dans sa dernière demeure. Un pote du béton, un frangin du quartier. Ça a été aussi la fermeture de tout ce qui était éclectique, cosmopolite, solidarité ouvrière. Les portes se sont refermées, il y a eu la froideur qui est rentrée. Et d'un seul coup, il y a eu un arrivage de barbus avec des robes qu'on n'avait jamais vues et qui sont venus pour dire « Nous, on va vous sauver de ça, on va vous sauver de la cam, les petits frères. » Et puis, bah, les petits frères, ils n'ont plus pris la cam pour se l'injecter, ils l'ont pris pour la vendre. Parce qu'ils ont vu partir leur grand frère. Ça a été des ravages comme le napalm au Vietnam. Hein. Et cette colère-là, elle est encore en moi parce que personne n'en a jamais parlé. Et moi, quand je refais le bilan de ce que j'ai écrit dans le livre, c'est du sang, l'encre. C'est pas de l'encre, c'est des hectolitres de sang.
Être né en France avec un passeport algérien, Slimane Dazis, ça veut dire pour vous... Faire le service militaire en Algérie, ça va être un moment clé de votre vie, que vous allez vivre à Bab El Oued, c'est un quartier populaire d'Alger, au milieu d'une bande de hittistes, c'est-à-dire les teneurs de murs, comme on dit là-bas, des hittistes qui ont pour nom Barry White, Sidney Poitier ou encore Lino Ventura, parce qu'on est, les rois des surnoms en Algérie. Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette période ?
La générosité, c'est-à-dire quand on n'a rien, eh ben on le partage. Et là, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour essayer d'éviter ces 2 ans de service militaire qui étaient, en tout cas, ce qu'on me disait, assez violent. Et surtout pour un petit émigré comme moi.
Pour un slim aux yeux bleus, c'est votre surnom à vous.
Ouais, après, je deviens de l'émigré, je deviens slim l'émigré, slim yeux bleus, parce que voilà, je fais partie du quartier, comme Youssef Barry White ou moi, Sidney Poitier ou Jamel Lino Ventura. Voilà. Voilà, je
deviens... Vous êtes un romantique, on l'a bien compris avec votre sonnerie de portable, parce que vous avez quand même mis Barry White sur cette sonnerie de portable, c'est magnifique. Alors, en lisant votre Indigène de la Nation, Slimane Dazis, moi j'ai appris un mot, c'est le mot ventouseur. Vous allez nous dire ce que c'est exactement, parce que ça a été votre premier métier, et c'est ce qui occasionnera votre rencontre avec le réalisateur Rachid Jaidani. Je rappelle, pour les auditeurs, français d'origine invisible, on va dire, c'est-à-dire français, père algérien, mère soudanaise. Vous avez quasiment le même parcours, tous les deux, c'est-à-dire que lui, il est agent de sécurité sur le film « La haine », ce qui est très intéressant parce que vous allez vous retrouver sur le tournage de « Rengaine », premier long-métrage de Rachid Jaidani, qui se veut être le contraire du film « La haine ».
Je ne sais pas si c'est le contraire, mais en tout cas, c'est un film qui a été fait en immersion, qui a été fait par quelqu'un du quartier, qui connaît le quartier, qui connaît plus que les codes, qui connaît viscéralement toutes les situations. Et quand il développe l'idée de Rengaine, donc ça s'appelle Les 40 frères à l'origine, il a ce projet en tête de faire un film sur nos histoires. Et plutôt que de faire un
film histoires de
sur nos histoires à nous, c'est-à-dire les enfants de la première génération, de la deuxième, de la troisième. Mais lui, il y a mélangé aussi sa propre histoire à lui, puisque de père algérien et de mère soudanaise, il a aussi, lui, je dirais, pas une double, mais une triple culture. Et triple culture, ça veut dire aussi des démons. Moi qui ne suis pas acteur, qui ne me projette absolument pas dans le métier d'acteur, je m'y projette à aucun moment.
Vous êtes ventouseur à ce moment-là.
À ce moment-là, je suis ventouseur. Et depuis un moment. C'est-à-dire, oui, je vais y venir. Vous êtes impatiente. Ventouseur, c'est une petite société. On appelle ça des fournisseurs pour les productions de cinéma qui font des réservations d'emplacement pour les véhicules techniques et les aires de jeu en extérieur. Donc on s'y prépare 24 heures, 48 heures, et quand il y a des gros budgets, quand c'est des films américains et qu'on doit bloquer pendant 4-5 jours, des fois c'est une semaine à l'avance. Voilà. Et
c'est là qu'il vous repère alors, Rachid Jaidani. Il repère votre gueule ?
Non, il repère ma gueule dans les soirées de mon frangin. Et puis j'étais un grand frère, et il me propose en gros d'interpréter un personnage qui est très très proche de mon personnage réel. Donc, au début, je suis. C'est pas que je suis réticent, c'est que je flippe tout simplement, ouais. Quoi. Voilà, je sais pas où je vais, moi. J'ai 42 ans.
Pas convaincu. Non. Et puis, vous le cachez encore, mais vous êtes romantique, c'est ça le hic.
Avec moi ou avec eux?
Avec toi.
Alors?
Tu veux pas essayer de le faire évoluer?
On est bien là.
Essayer de faire évoluer ta famille?
Non, j'ai pas envie de faire évoluer 40 mecs, c'est pas la peine. 40 rebeux, c'est impossible quoi. Mais par contre, j'ai envie qu'on évolue nous.
Ouais, caché.
Pour l'instant, cachère, halal, comme tu veux. C'est compliqué.
Toujours la même rengaine avec cet extrait du film éponyme de Rachid Djaïdani. Quelle est votre toute première scène au cinéma, Slimane Desi?
Ma première scène au cinéma, c'est avec Rachid Djaïdani. Je vais visiter un copain à Bruxelles qui me dit que est-ce que ça me dirait d'aller faire un tour à Amsterdam pour aller voir Rachid qui joue au théâtre. À cette époque, il fait partie des comédiens de la troupe de Peter Brook. Et il me dit, on y va en voiture, on en a pour 2h30, et puis on voit la pièce. Alors, en bon rabouin qu'on est, on arrive à la bourre, donc on voit pas la pièce. Mais en sortant, Rachid, il est avec un de ses copains et collègues de jeu. Et donc c'est un grand black, il me fait le pitch et puis il a sa caméra à la main et tu le fais ça, tu sors la lame et tu le plantes, voilà.
Donc vous campez le grand frère maghrébin, comment vous faites pour devenir instantanément un personnage?
Comment je fais moi?
Vous n'avez pas fait d'école, ni de théâtre, ni de rien du tout, comment, qu'est-ce qui se passe?
Là c'est la magie de la mise en scène d'un mec qui a rien du tout mais qui a tout dans le cœur, qui a tout dans le cerveau. Qui fait qu'on va faire des rencontres au croisement d'une rue avec des personnes qu'on ne connaît pas, qui sont des non-acteurs à 90%. On connaît les situations.
Donc mélanger le réel à la fiction. Donc c'est le frottement, c'est ça, entre des vrais gens, on va dire, de la vraie vie, et vous, qui avez un petit scénario dans votre tête.
Mais eux aussi, ils ont un petit scénario, puisqu'il leur a parlé aussi à eux. Donc, en fait, sa mise en scène, c'était ça. C'est de parler à l'un, de parler à l'autre, mais jamais de parler aux deux en même temps. Et c'est ce qui fait la surprise. Et là, les surprises étaient bonnes, puisque le film a été vu par M. Michel Réac, qui a proposé à Edouard Winthorpe, qui était directeur de la Quinzaine, de voir ce film. Quand il l'a vu en partant de chez lui, donc de Genève à Cannes, il a décidé de le sélectionner pour la Quinzaine des réalisateurs.
Professionnellement, y a-t-il des situations où vous avez ressenti de l'injustice?
Pas des tonnes, parce que, en fait, je crois que je me suis tout de suite mis à l'abri par rapport à ça, pour ne pas clasher, pour ne pas péter un plomb, et puis pour ne pas répondre avec la violence.
Alors, ce qui est intéressant, c'est votre gueule, cette fameuse gueule, qui peut aussi être un piège, on va voir, cette belle gueule de fracassé, comme on dit, mais on ne sait pas exactement quel comédien se cache derrière. On a la gueule du grand frère, en tout cas, qui va nous arriver en sol majeur, cette gueule qui en a vu, du mec à qui on ne peut pas la faire, Slimane Desi en 3 films, c'est maintenant.
C'est au courant pour la franchise?
De quoi? Il
paraît que Sabrina va se marier.
Va se marier?
Sabrina va se marier.
Elle va se marier avec un renard. Elle s'appelle Dorcy. C'est un comédien.
Je viens avec toi, on est mariés ensemble. Qu'est-ce qui se passe, Slimane? Tu le rencontreras le jour de mon mariage, d'accord?
Sabrina, il n'y aura pas de mariage. Tu le connais depuis quand, Luciani?
Depuis la centrale.
Tu travailles pour eux depuis ce temps-là?
Ouais.
Ça s'est fait comme ça.
Ouais.
T'es arrivé, t'as travaillé pour eux.
Ouais.
Ils te protègent?
Bah non, je travaille. Ils me protègent pas.
T'es leur arabe, ils te protègent.
Mais non, je travaille pour eux.
Ça te coûte quoi, la protection? Tu balances? Tu fais le coursier?
Tu les suces?
Tu cherches quoi, là?
Ça, pourquoi un putain d'arabe travaille pour les corps? Tu fais la danseuse? Hein? T'es leur serveuse? J'avais un pote qui était à Brécourt. Il n'est jamais ressorti. Il s'appelait Rayeb. Rayeb, ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose?
نشوفك منورة اليوم مدام إير.
شكرا هاري. Alors, dis-moi comment va-t-il vraiment?
Mon professeur est fragile. Mais il a un moral d'enfer.
Et il est entre de si bonnes mains.
Il est ma famille. Et je protège. Je protège ses secrets. Et les tiens aussi.
Slimane Dazi en sol majeur pour RFI en trois rôles. Donc le grand frère maghrébin qui veut pas que sa sœur épouse un Renoir, ça c'est dans Rengaine. Brahim Latrache, le caïd à Marseille, ça c'est dans Un prophète. Et puis à l'instant, Bilal, l'ami du vampire, dans Only Lovers Left Alive, signé Rachid Jaidani, Jacques Audiard et Jim Jarmusch. Excusez du peu, c'est un beau palmarès. Est-ce que ça veut dire qu'on a là trois manières d'apprendre le métier d'acteur?
Oui, bien sûr. On a trois manières de travailler et on a trois manières aussi de proposer. Avec Rachid, ça a été comme un coach de boxe qui t'emmène, mais en même temps qui t'explique pas comment tu dois boxer. Tu dois te débrouiller quand t'es face à l'adversaire. Avec Jacques, ça a été une histoire de confiance mutuelle, mais aussi une histoire de séduction quelque part. Bon, d'abord, Jacques était déjà Jacques Audiard. Slimane Dazi, dans le cinéma, n'était rien. J'ai juste essayé d'imposer ce rien que j'étais dans le cinéma, mais ce Slimane Dazi qui existait depuis 42 ans et auquel moi, j'avais confiance à 200%.
Et Jarmusch?
Jim Jarmusch, alors ça, c'est une super belle histoire. Bah, voilà, c'est à l'image du réalisateur et c'est à l'image de ce poète du 7e art, quoi, parce que pour moi, c'est la très grande classe. Et Jim, il me rencontre par le biais d'une amie qui lui montre une photo de moi. Et à ce moment-là, Jim, il dit, mais c'est quoi? C'est un OG, lui. C'est OG, c'est old gangster.
Ah oui, mais voilà. Est-ce que ce n'est pas en même temps le problème? D'abord, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous êtes perçu essentiellement comme, je parle du personnage, ce que vous inspirez finalement au réalisateur, comme le métèque, comme le proxo, comme le bad boy, quoi. Vous avez une belle gueule tragique, mais qui ressemble à un piège. Est-ce que vous aimeriez pas jouer d'autres partitions? C'est quoi vos rêves en tant qu'acteur?
Non seulement c'est pas des rêves, hein, d'abord, hein, c'est des souhaits, mais il y a eu des films où j'ai été auréolé par plein de prix avec Didier Michon.
En jouant quoi?
En jouant un père brisé qui va découvrir un gamin qu'il ne connaissait pas. Ça s'appelle Fièvre, c'est de Hicham Ayouch. Mais il y en a eu d'autres aussi. Et Dieu merci, il y a des étrangers qui voient dans ma gueule quelque chose de sensible, comme un romantique. Je peux être un homme avec une gueule cassée, mais avec un vrai parcours, qui va tomber amoureux, qui va se faire rouler dans la farine par une petite jeunette de 25 piges.
Ouais.
Et malheureusement, c'est pas en France. Et c'est pour ça que je dis
c'est
que...
C'est pas en France.
Non, c'est en Hollande, c'est en Irlande, c'est en Croatie, c'est en Belgique. Mais malheureusement, c'est pas en France.
Donc il y a toujours injustice et discrimination dans les castings en France quand on s'appelle Slimane Dazi et qu'on a votre gueule.
Je vais pas dire injustice parce que à partir du moment où je travaille et que je choisis quand même mes rôles,
oui,
je peux pas parler d'injustice.
Vous payez même le luxe, mais là c'est pas la France, de dire non. Vous avez refusé de tourner avec Brian De Palma.
Ouais, je suis pas le seul. Il y a Mourad Zeghendi, le Belge, qui a eu la même proposition que moi, qui a fait le même retour en disant à partir du moment où c'est une sombre caricature dégoulinante, je suis sincèrement désolé, mais ça.
Caricature de quoi?
De terroriste, mais si c'était pas un rôle, c'était une insulte.
Quand la presse vous qualifie de Gabin Métèque, Slimane, vous ressentez quoi?
J'aimerais qu'on me propose les rôles de Jean Gabin à l'âge que j'ai.
Vous souhaitez écrire une lettre à votre chérie. Dans quelle langue écrivez-vous l'amour?
L'hub, je l'écrirai phonétiquement en français.
Phonétiquement?
Bah oui, parce que je ne sais pas écrire l'arabe.
Donc, soyons simples. J'écrirai dans la langue de Lamartine et de Molière.
Ouais, dans la langue de Céline et Calafert aussi.
Vous vous définissez aujourd'hui comment alors? Comme un Français de double culture?
Je me définis comme un vrai Titi Parigot ou les pavés parisiens et puis, les trottoirs d'Alger, eh ben, ils se mélangent. Ben voilà, je suis un franco-algérien, 100% parisien. Mmh. Voilà.
Très attaché à la Méditerranée, côté Algérie, et à la Manche, côté Finistère.
Ouais, la France, c'est une grande, grande histoire d'amour pour moi. C'est un pays qui a une idée géniale, vraiment.
Laquelle?
Ben, le pays, l'idée de pouvoir voyager entre... le bien, le mal, les frictions. Moi, j'aime ce qui est accidenté. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que ma gueule ressemble un petit peu à mon histoire.
Pourquoi vous aimez ces tensions qui existent?
Non, je n'ai pas dit des tensions, j'ai dit ces frictions. J'ai dit c'est pas... Être en conflit, ce n'est pas des tensions. Voilà, ça peut être une tension, mais à partir du moment où la tension s'amenuise par un dialogue, s'amenuise par une rencontre, ce n'est plus une tension. Je ne garde pas la tension, je retiens le résultat. Mmh. Le résultat, c'est que c'est une rencontre. Moi, j'ai rencontré la France rurale, avec Urbain Minjoulat, paix à son âme, à Gand, à côté de Pau, où j'ai découvert des gens de la campagne qu'on appelait les pecnos péjorativement. Et c'est des gens d'une noblesse, d'une classe, ouais, qui est certainement, qui pue le foin et la paille, mais qui est d'une sincérité sans nom, quoi. Mmh.
Les vrais gens.
Ah ouais.
Votre première identité, on le disait, c'était celle de grand frère maghrébin, avec les codes qui vont avec. Et ce qui est très joli dans votre livre, Slimane Dazi, c'est que vous racontez bien, vous cachez rien, vous êtes cash, on voit bien que vous êtes complètement honnête. Cette double culture, on va dire, franco-maghrébine, un peu mise à mal, déstabilisée même, quand vous vous retrouvez sur un plateau de tournage à jouer en face d'un travesti.
Ouais. En fait, c'est pas un travesti. Dans la scène, il n'est pas travesti. Il est homosexuel. Et ouais, je suis déstabilisé parce que c'est tout le travail que je vous expliquais de la mise en scène de Rachid Jaidani, où bien évidemment, je ne connaissais absolument pas la situation là. Lui seul connaissait la situation. Moi, j'arrive et je découvre que j'ai un grand frère qui est une grande sœur. C'est comme ça que je l'ai appelé d'ailleurs. T'es pas un grand frère, t'es une grande sœur. Et c'est pour ça que tu comptes pas pour moi. Cette situation, comment je le suis cueilli, je le joue, mais je le joue pas, je le vis. Là où j'étais persuadé pouvoir sortir le grand frère, entre guillemets un petit peu macho, comme il avait été écrit dans sa tête, et là il va me démolir. Ça va être le grand frère qui va se faire démolir par un autre grand frère, qui est homosexuel, mais qui est un vrai grand frère. Et là, à ce moment-là, oui, mon identité de Slimane Dazi, elle est perturbée, mais c'est un vrai contre-pied qui m'a fait. C'est un contre de boxeur, quoi. Il m'a mis un uppercut. Je ne l'ai absolument pas vu venir.
Est-ce que le cinéma vous a changé?
Non, pas vraiment.
Une dernière question. Vous avez intitulé votre livre « Indigène de la nation ». Donc ça va m'inspirer cette interrogation. Est-ce que vous êtes proche des indigènes de la République, qui est devenu un parti politique aujourd'hui qui se proclame antiraciste et décolonial?
Non, parce qu'il y a un discours qui est politique et qui est toujours récupéré par des partis, que ce soit de gauche ou de droite. Hein. Moi, je les trouve pas si indépendants que ça. Et puis j'ai pas envie de faire partie, tout simplement, d'un parti politique. J'ai absolument pas envie. Moi, le seul parti politique que je connais, c'est la colère à cause de l'injustice. J'aime pas les troupeaux, j'ai toujours été un solitaire. Même si j'aime les gens, je connais beaucoup de gens, mais en fait, je suis un vrai solitaire.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Slimane Dazi, l'une des gueules du cinéma français, Indigène de la nation, ça va si je dis ça?
Bien sûr.
Bon. Aux éditions Don Quichotte. On va finir sur la piste de danse, avec le pas de def, etc. et Sex Machine, James Brown. Ça, c'était vos folles nuits ou c'est toujours vos folles nuits?
Oh non, c'est toujours, dès que je peux. Mais James, c'est même le matin chez moi. Hein.
James.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous espère et on vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.